Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, émission numéro 9 de cette saison 8, ou la 89e émission depuis tout le début. Divergence numérique, c'est votre émission sur le libre, les logiciels libres, et en compagnie de Pascal Rullier au micro. Un petit coucou à Gilou qui se repose. Et puis Anaël aussi qui se repose aussi, il travaille dur. Merci à vous qui nous écoutez sur le 93.9 de Divergence FM et sur Montpellier, sur le 103.3, 104.1 si vous êtes du côté de Ganges ou de Saint-Hippolyte-du-Fort, sur Radio Escapade et puis sur divergence-fm.org pour le reste du monde. Petit coucou aussi à nos Belges et à nos Québécois. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le chat de Divergence, divergence-fm.org. Voilà, petit sommaire pour cette Divergence numérique 89. Après quelques semaines, il était grand temps de revenir sur l'actualité logicielle. Donc au sommaire, vos incontournables nouvelles du front avec la revue de presse de l'april de la semaine 47. Et puis nous passerons évidemment en revue des nouveautés logicielles, quelques news. Et tout cela en fil musical pour agrémenter toutes ces lectures, toutes ces informations. Forcément, nouvel logiciel dit aussi musique du logiciel libre, et non encore, ça y est, vous allez me dire, mais oui, mais ce n'est pas la version originale de Richard Matthew Stallman, mais ses dérivés encore plus pigmentés les uns que les autres. Donc tout de suite, passons aux nouvelles du front.
Nouvelle du front.
Nouvelle du front avec la revue de presse de l'April, april.org, en la personne de Emmanuel Charpentier et Luc Fievier.
Bonjour. Revue de presse de l'April, semaine 47 de l'année 2010. Luc, quel est le sommaire aujourd'hui ?
Alors, un sommaire assez intéressant. Déjà, on va commencer par parler du commissariat à l'énergie atomique qui œuvre pour une bombe libre. Ça fait plaisir. Ensuite, au niveau des appels d'offres, des bonnes et mauvaises pioches, y compris le jeu de mots, plus de libre à l'école, diaspora à petits pas, le phoné qui moissonne des brevets, Kinect et Hackers, MS calmé, et pour commencer, quelque chose sur les biens communs, donc quelque chose qui a été publié par Artesi, un article de la rédaction qui s'appelle « Porter le débat sur les biens communs », et donc ça nous parle du Forum social mondial.
Et en l'occurrence, c'est surtout tout ce qui va se passer en février 2011, des rencontres entre des gens du social et des gens des sciences et de la démocratie pour discuter des biens communs. Alors les biens communs, c'est une notion un petit peu vague pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Les logiciels libres sont un de ces biens communs, mais comme bien d'autres, toutes les connaissances de l'humanité d'une manière générale, tout ce qu'on ne monétise pas comme d'habitude ou qu'on ne possède pas de la même manière, mais qui est quand même utile. Luc, qu'est-ce qui te vient en tête comme bien commun ?
Hormis les logiciels libres, hein. Alors il y a la génétique, tout ce qui est le patrimoine génétique, par exemple, les ressources naturelles, les minerais, probablement pas, en tout cas c'est déjà propriétarisé, mais l'eau, l'air et ce genre de choses, et il y en a tout un paquet. C'est très intéressant cette notion parce que ça permet de relier le logiciel libre à tout un tas d'autres sujets, et nous, on s'aperçoit qu'il y a des connexions très fortes. Donc voilà, il va y avoir du débat. Alors c'est un appel à des associations à participer. Il y aura des représentants français qu'on connaît bien, comme notamment Hervé Lecronier. Voilà, en tout cas, il va y avoir plein de débats et ça va être assez, très intéressant à suivre dans une perspective un petit peu élargie par rapport à nos problématiques habituelles. Donc ce sera à Dakar, hein, ça sera un petit peu loin pour y aller. Donc 4 et 5 février 2011. Voilà.
Alors Luc, le Kinect et Hackers, MS Calmé, de quoi il s'agit ?
Alors, bon, on avait parlé c'est les dernières semaines de la colère du côté de, comment dire, de Microsoft par rapport au Kinect et au driver pour le matériel. Donc, c'est un article de Xboxygen, pardon. Driver open source Kinect, MS laisse faire. Donc, un article de la rédaction. Après toutes les histoires dont tu nous avais parlé assez largement, qui étaient assez amusantes. Bon, il s'avère que Microsoft s'exprime en disant que pour elle, hacker du matériel, ça veut dire le pirater, et qu'elle est résolument contre, mais que s'il s'agit de faire des drivers pour pouvoir développer de nouvelles applications, etc., ils ne sont pas contre, c'est très bien. Et en fait, ils y ont tout intérêt, parce que dans leur idée, ça leur permet de voir de nouvelles idées qu'ils pourraient développer ou racheter par la suite. Donc voilà, ils sont finalement favorables.
On s'amuse bien quand on pense qu'il y a eu toute une colère, ou en tout cas on pensait qu'il y avait toute une colère autour de ces drivers. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que ça les arrange.
Donc le phoné qui moissonne des brevets, donc ça c'est une histoire assez marrante, un article ZDNet.fr, donc l'achat de 882 brevets de nouvelles par Microsoft, suscite inquiétude et spéculation par Christophe Auffray.
Et non, je ne trouve pas ça du tout amusant. C'est une boîte très importante du logiciel libre Novell, notamment parce qu'elle possède, elle a acheté tout la distribution SUSE, OpenSUSE. Il y a plein de développeurs qui sont derrière, il y a plein de gens très intéressants qui font des choses vraiment bien. Et donc non, c'est quelque chose d'assez terrible. Et en l'occurrence, ils se font racheter. Ils se font racheter et il semblerait qu'ils se font racheter par une boîte qui, par ailleurs, est propriété de Microsoft.
Voilà, ce que ZDNet appelle une holding mystérieuse, visiblement fondée quelques jours seulement avant le rachat de Novell.
Oui, ils ont dû faire ça à l'arrache. Ça se demandait s'ils ne sont pas installés aux Caraïbes. Et là, ce qui est terrible, c'est que Novell, pour ceux qui le savent, en l'occurrence, c'est quelque chose d'important, ils possèdent les droits sur Unix. Alors l'Unix, c'est le vieux système d'exploitation des années 60-70 qui est un peu à l'origine de Linux.
Quand tu dis les droits, c'est quoi ?
Oui, les droits d'auteur, parce que ça fait partie des gros problèmes qu'il y a eu à cette époque-là. Unix a été propriétarisé, on va dire. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait des boîtes qui possédaient les droits d'auteur et ils se sont pas laissés aller, ils n'ont pas laissé ces droits aux autres. Et ça a été tout un problème qui a généré GNU. GNU is not Unix vient de là, ça vient du fait que les droits d'auteur d'Unix étaient propriétaires. Et donc aujourd'hui, penser que c'est Microsoft qui pouvait ou qui était à deux doigts, ou peut-être qu'il l'a fait, hein, qui possède ces droits-là, c'est quelque chose d'assez phénoménal et ça fait peur à beaucoup de monde. Alors ça n'empêche, en tout cas ce dont on est sûr, c'est qu'ils vont ils mettent la main sur plein de brevets. En Europe, ça ne nous concerne pas trop, mais aux US, ça risque de leur faire mal.
Et Microsoft, en plus ça, Microsoft Unix, c'est son concurrent direct.
Ce concurrent des années 80, hein, parce qu'aujourd'hui, ils ont un peu, ça s'est un peu tassé tout ça. Disons qu'Unix a été bouffé par tous les dérivés GNU Linux. Hein, et Unix, aujourd'hui, c'est plutôt un vieux chambranle qui tient encore la porte un petit peu, mais bon, on est passé à autre chose.
Alors, il y avait eu des antécédents il y a quelques années sur des questions de brevets de droits d'auteur sur de l'Unix pour attaquer Linux, donc au travers de SCO, c'est ça, si ma mémoire est bonne.
Et ils avaient attaqué IBM sur du droit d'auteur, car IBM avait soi-disant piqué des droits, des lignes de code qui venaient d'Unix. Et en fait, bon, ça s'est révélé comme étant rien du tout, mais ils avaient attaqué pour $1 milliard quand même. Bah là, avec Microsoft qui récupère autant de brevets, donc plus de 880, eh bien on peut imaginer qu'ils vont peut-être attaquer du monde, on va voir. Alors, diaspora à petits pas.
Donc un article de Numérama, diaspora commence à s'ouvrir aux internautes sur invitation, par Julien L. Donc bon, c'est pas une super grande nouvelle, c'est intéressant quand même. Diaspora, c'est un logiciel, un réseau social libre qui s'était lancé à grand bruit un peu avant l'été. C'est pas le seul, hein, mais c'est le projet qui a fait le plus de bruit, qui avait sorti son code source là à la rentrée et ça fait un peu mis des craintes parce qu'il y avait des gros trous et que c'était pas fabuleux. Mais c'était même pas une version alpha et donc là ils commencent à faire leur première sortie, ce qui va permettre de débugger donc version alpha pour voir si ça fonctionne, trouver les failles de sécurité, les bugs, ce genre de choses. Ils ouvrent ça progressivement, d'abord aux gens qui les ont financés et sur invitation pour faire monter la charge gentiment.
Alors, plus de libre à l'école.
Donc, un article du Monde, qui est un point de vue. Les logiciels libres doivent être plus présents dans l'éducation, par Jean-Pierre Archambault et Patrice Bertrand. Patrice Bertrand qui est le patron de Smile, qui est un intégrateur dont on a déjà parlé, on en parle beaucoup ces temps-ci. Donc c'est tout un argumentaire sur pourquoi l'école et l'éducation en général devraient laisser plus de place aux logiciels libres. Premier argument en disant que ça coûterait moins cher que le propriétaire et que les sous par les temps qui courent c'est pas facile. Il faut remarquer également que le domaine du logiciel libre recrute et que c'est un domaine en pleine croissance et qu'il est grand temps de fournir de la main-d'œuvre qualifiée dans le domaine. Mettre le point aussi sur la nécessité d'enseigner l'informatique pour elle-même et pas uniquement comme un outil, ce qui est en général le cas actuellement. Donc l'idée qu'il y a un intérêt à le faire, à enseigner l'informatique pour l'informatique. Et souligne par ailleurs que le logiciel propriétaire, même si c'est dominant actuellement, c'est potentiellement éphémère. Et ça rentre tout à fait dans cette idée de ne pas enseigner un logiciel en particulier, ça n'a pas grand sens. Sur la durée d'une vie professionnelle, par exemple. Et pour finir, ils disent que favoriser des grands monopoles étrangers de surcroît, c'est pas la mission de l'éducation nationale. Et après ça, il y a toute une série d'arguments qui sont. Voilà, le texte est très bien ficelé. Un texte à lire est très intéressant au niveau des arguments. Voilà, et côté éducation, il se passe plein d'autres choses.
Alors, un article sur zdnet.fr, l'école numérique Luc Châtel débloque 60 millions d'euros sur 3 ans. Et un article sur Marianne 2, le numérique à l'école, pourquoi faire appel au privé. Alors, c'est celui-là que je trouve le plus intéressant.
Alors, les deux sont intéressants parce qu'ils se font un peu écho l'un à l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, Luc Châtel sort le chéquier et dit « Ouais, regardez, je mets plein de sous ». Et de l'autre côté, on a la réaction d'un enseignant qui est pro-logiciel libre, mais qui a une vision de l'intérieur sur la façon dont on dépense l'argent et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, de façon beaucoup plus efficace.
Qui, en l'occurrence, parle du fait que simplement les enseignants font beaucoup de logiciels libres, connaissent bien le logiciel libre. Il suffirait de leur demander à eux, voire même de les aider en termes de temps ou en termes de moyens, pour qu'ils mettent en place des solutions. Et ils le font déjà, mais bon, l'éducation nationale au sens mastodonte, elle s'intéresse peut-être d'autres mastodontes, des Microsoft et en veux-tu que voilà, ça fait mal au cœur. Par ailleurs, il y a un autre article sur My Opinions de Roberto Di Cosmo qui explique, alors c'est mutualisation et logiciel libre dans l'administration publique, et qui explique très bien tous les intérêts qu'il y a pour les administrations générales, d'une manière générale, à passer au logiciel libre, les avantages des choses toutes bêtes, hein, favoriser effectivement les industries locales, les entreprises locales, les compétences locales, mais aussi de simplement ne pas faire sortir les compétences et se baser sur des pays étrangers dont on ne connaît pas forcément tout, et en utilisant leur logiciel sans avoir aucun contrôle dessus. Donc un article à creuser, Roberto Di Cosmo a l'air d'avoir pas mal d'opinions, et celle-là notamment est des plus intéressantes.
Donc appel d'offres, bonne et mauvaise pioche.
Alors sur CIO Online, argumenter contre les marchés publics informatiques illégaux de Bertrand Lemaire. Donc un article qui présente une documentation qui a été écrite par l'April, et qui explique en 9 pages, 9 petits feuillets, assez rapidement, comment les marchés publics doivent être faits et comment, surtout, ils ne sont pas faits actuellement, comment on peut les améliorer. Simplement, en ne préconisant pas d'office des solutions et en les fixant dans l'appel d'offres, ce qui est illégal, mais en les laissant ouverts, et ce qui permet notamment de les laisser ouverts au logiciel libre.
Il ne s'agit pas que de les améliorer, effectivement, il s'agit de respecter la légalité. Un appel d'offres, c'est une procédure assez longue. Et derrière, si on n'est pas dans la légalité, il y a toujours la possibilité que la concurrence attaque et fasse casser le marché par un tribunal. Donc l'enjeu est super important pour les collectivités. Dans le document, on voit qu'il y a 20% des appels d'offres dans lesquels, en rapport avec l'informatique, dans lesquels il est fait mention directement d'une marque ou d'un modèle, ce qui est illégal. Donc, et on ne parle pas du reste. Voilà. Ce document, c'est heureux, a connu aussi un relais sur commentçamarche.net, sur à peu près le même genre de problématique. Pendant ce temps-là, sur la question des appels d'offres, au Québec, il s'était passé des choses avec une décision de justice très favorable au logiciel libre. Et là, nouveau litige, donc un article du Soleil, du groupe cyberpresse.ca, article nouveau litige autour des logiciels libres par Pierre Asselin.
Et qui explique, donc il revient rapidement sur la cour de cassation, enfin la cour supérieure qui avait cassé un jugement et qui ouvrait la porte au logiciel libre. Là, en l'occurrence, il y a des nouvelles évolutions. Les administrations sont en train d'essayer de refermer par ailleurs.
Alors, une administration en particulier, hein, qui est le Centre de services partagés du Québec, qui donc vient d'adopter des normes qui accordent pratiquement l'exclusivité aux solutions Microsoft.
Oui, au nom d'une rationalisation, ils veulent regrouper des serveurs ensemble, regrouper des services et se focaliser sur Office 2007, Microsoft Exchange 2010. C'est de la normalisation où c'est tout simplement, rebelote, on veut contourner le jugement et les conséquences qu'il y avait eu, qui ouvraient Donc beaucoup de choses au logiciel libre. C'est peut-être un moyen, détourné ou pas, de revenir à l'ancienne, hein, du bon vieux logiciel propriétaire.
Voilà, c'est ce que dit en tout cas Daniel Pascoe, qui est donc un expert logiciel libre de l'Université de Laval. Voilà, et donc cette décision est évidemment commentée négativement par l'APEL, qui est l'association, une association québécoise de défense du logiciel libre. Alors le CEA pour une bombe H libre, de quoi s'agit-il ?
Un article de 01net.com, plongé au cœur du plus puissant ordinateur d'Europe, de Éric Le Bourlou, et qui parle en quelques mots et surtout en une vidéo de quelques 4 ou 5 minutes.
Alors, l'article n'est pas négligeable, la vidéo est en flash, hein, donc c'est caca, mais l'article n'est quand même pas négligeable.
Oui, ça donne des nombres, on va les donner, je pense, il n'y a pas de mal.
Alors, il s'agit de quoi déjà ?
Eh bien, c'est le plus gros ordinateur, ou un ensemble d'ordinateurs, hein, il ne faut pas rêver, mais le plus gros d'Europe et le 6e plus gros du monde, qu'on appelle, alors c'est le Tera 100, et qui a l'avantage et la caractéristique importante pour nous de tourner sur du logiciel libre, en l'occurrence une Red Hat. Donc il n'y a pas de mal à faire de la pub pour eux. Donc tout ce système est considérable et il sert à faire tourner des simulations pour les bombes nucléaires françaises. C'est un vieux sujet des années 90 qui ressurgit aujourd'hui, mais bon, sous une forme qu'on n'est pas forcément à regretter. C'est des machines qui sont basées sur des octo-cœurs Intel Xeon. Tout ça tourne dans une salle de 600 m². Il y a 4370 serveurs, hein, des serveurs Bullix. On ne peut pas faire de mal. Il y a 17 480 processeurs, donc ça fait quelque chose comme 140 000 unités de calcul. 1,05 pétaflop, je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est le nombre de calculs à la seconde. C'est un truc de malade. Il y a 20 pétaoctets de stockage vidéo et 300 téraoctets de RAM. Là, ça me parle un peu plus et ça ne tient pas dans la poche. Ce qui est intéressant, c'est que notamment, ils sont en train d'en préparer un nouveau.
Oui, donc il s'appellera Curie, hein, Curie comme, non pas comme l'épice, hein, mais comme la scientifique bien connue. On reste, ceci dit, dans le domaine de la radiation. Voilà. Par contre, ce sera pour des activités civiles et il fera 1,5 pétaflop, donc ça déchire sa race, comme on dit, dans les milieux autorisés.
Bon, eh bien, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Emmanuel Charpentier et Luc Fievier pour cette revue de presse de l'April, april.org, une revue de presse que vous retrouvez sur dogmazic.net si vous cherchez April. Vous êtes toujours sur Divergence Numérique, 93.9 pour Divergence, 103.3, 104.1 pour Radio Escapade. Divergence Numérique, c'est votre émission sur les logiciels libres. On va s'accorder une petite pause musicale avec la chanson du logiciel libre, qui n'est pas interprétée là par Richard Matthew Stallman, mais par Pink Stainless Tail dans une autre version. On écoute et puis c'est en GPL.
robbing of free software. Hardcore hackers, hardcore. We'll throw out the dirty licenses. Ever more hackers, ever more. Ever more. Join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free.
La chanson du logiciel libre interprétée par le groupe Pink Stainless Steel, toujours sur Divergence numérique, sur Divergence FM, Radio Escapade 93.9, 103.3, 104.1. Voilà, on aborde notre partie nouvelle logicielle avec les interactions médicamenteuses en toute liberté. L'équipe de FreeMedForm est heureuse de vous annoncer la sortie de FreeDiams 0.5.0 de sa suite logicielle. FreeDiams est un logiciel médical créé par des médecins informaticiens, oui, ça existe, qui permet de rédiger une prescription. Rien de bien nouveau, à l'exception du fait que FreeDiams est l'unique logiciel libre au monde qui, à ce jour, propose la recherche d'interactions médicamenteuses en open source. C'est une avancée majeure dans le monde de l'informatique libre médicale. En effet, le nombre d'interactions connues, comme le nombre de médicaments disponibles sur le marché, sont de plus en plus nombreux. Il devient impossible à un cerveau humain de tout encaisser, dit l'article. L'outil informatique, ici, est d'une aide précieuse. D'autant que, qu'en plus de gérer les interactions médicaments, FreeDiams commence à s'introduire dans la gestion des interactions médicaments-patients, gestion des allergies et intolérances. Les gros avantages de FreeDiams sont sa gratuité et son ouverture. Il peut être lié à n'importe quel EMR, gestion dossier patient, grâce à une gestion de fichiers d'échange. GnuMed et MedInTux ont déjà sélectionné FreeDiams comme système expert médicamenteux. Énorme avantage, le moteur d'interaction est internationalisé et disponible d'ores et déjà de façon native avec les bases thérapeutiques des USA, du Canada, de l'Afrique du Sud et de la France. Malheureusement, le moteur de recherche d'interaction médicamenteuse n'est pas encore suffisamment scientifiquement validé. Certaines interactions ne sont pas encore correctement repérées. Malgré un travail acharné des développeurs, ils sont toutefois très optimistes. Le projet est encore tout jeune, 2 années seulement. Plusieurs communautés open source ont intégré FreeDiams. C'est le cas de Debian Med et d'OpenSUSE Medical. Fedora Medical est en cours. Donc Debian Med, OpenSUSE Medical, Fedora Medical, des distributions de GNU Linux orientées pour le médical. La version 0.5.0 stable a été publiée et c'est le fruit de 2 années de travail bénévole. La roadmap, c'est-à-dire le calendrier de projet pour la version 0.6.0 est déjà publiée sur le site internet de FreeMedForm. Avis aux amateurs, une news que l'on peut retrouver sur le site directement http://www.freemedforms.com. voilà, ou sur l'article de l'émission divergence-fm.org, rubrique Société Divergence Numérique. On poursuit dans ces nouveautés logicielles avec la sortie de NetBSD 5.1. Voilà, enfin, diront certains, après 4 releases candidates, c'est-à-dire des avant-sorties, NetBSD version 5.1 est disponible. Elle comporte des mises à jour de sécurité, des correctifs de bugs, mais également une prise en charge du matériel amélioré et de nouvelles fonctionnalités. Donc, la prise en charge du matériel est améliorée. Un pilote RedFrame grandement remanié. Il a vu en particulier l'intégration du travail réalisé par Jeff Davis à l'occasion du GSOC 2009 visant à améliorer le recalcul des parités suite à un arrêt brutal, crash ou panne de courant, par exemple. De nombreux pilotes ont été rajoutés ou mis à jour. Donc, différents types de matériel. On peut noter aussi des pilotes Wi-Fi, AGP, audio, etc. De nouvelles fonctionnalités, la prise en charge de périphériques, SD-MMC. Donc, ça, c'est vos petites cartes de mémoire hein, qui ont été ajoutées donc, dans cette version. Le port XN aussi a été enrichi de la gestion I386 PAE, Physical Address Extension, permettant d'adresser plus de 4 gigaoctets de mémoire donc pour le DOM 0 et PCI Pass-Through pour donner le contrôle complet d'un périphérique PCI 1 DOM UXN. Ça parlera à certains, mises à jour de sécurité également. Donc, de nombreux composants du système ont été également mis à jour pour corriger les problèmes de sécurité. Donc, BindD, qui est un serveur de nom, NTPD, un serveur de temps, FTPD, un serveur de transfert de fichiers, OpenLDAP, OpenSSL. Donc, cette version est dédiée à la mémoire de Martti Kuparinen, qui a disparu dans un accident de voiture en juin 2010. Plus d'informations sur netbsd.org. Alors, on parlait de NetBSD et puis on peut parler de Mandriva qui annonce un redémarrage de sa distribution. Eugénie Dodonoff, le nouveau responsable de Cooker, qui est la version expérimentale de Mandriva, annonce une Mandriva 2010.2. pour les environs du 22 décembre 2010. Donc, soyez attentifs, cette version sera, dit-il, un regard rafraîchi jeté sur notre version la plus récente, Mandriva 2010.1, avec en plus toutes les mises à jour de sécurité et les corrections de bugs qui ont été faites depuis. Plus de nombreuses corrections concernant la stabilité et la performance dans beaucoup, beaucoup de paquetages. En outre, Dodonoff fournit un calendrier prévisionnel pour la Mandriva 2011. Désormais, il n'y aura qu'une sortie de la distribution par an et non plus deux, comme c'était le cas donc jusqu'ici. Alors, la version alpha, la toute première donc Mandriva 2011 est prévue pour le 31 janvier 2011, la bêta 1 pour le 28 janvier, un mois plus tard, la bêta 2 le 28 mars, la release candidate, donc celle qui est juste avant la sortie finale pour le 25 avril, et la sortie finale pour le 30 mai 2011. Donc, à suivre, on peut retrouver donc cette information sur LinuxFR aussi et sur osmatic.com/blog. Voilà, je vous propose de faire une petite respiration musicale de ces nouvelles avec toujours la chanson du logiciel libre, mais maintenant dans une version différente, toujours avec les mêmes paroles, et c'est chanté, interprété par Filk Infinity Hands.
Infinite hands bid a world to be free, the digital space we all know. Unlimited use as the code that we write, and freedom's the badge we all show. The stuff runs all servers, all desktops and grids, and countertops was made. set out in the wild on the day it is born for free-running, long-coding trade. And no law shall bind us or keep us for long, for infinity's ours and infinity is free. And no company owns us and no lands are owned, for infinite hands are we. The companies thought that they'd pay us for lines and have all the code for their own. Your company people and company teams, your code benows of us alone. A storeman was only a student that day, but he's earned himself the king bee. The world to a shop draw, my code shall be free, for what they don't own they can't keep. And no law shall bind us or keep us for long, for infinity's ours and infinity is free. And no company owns us and no lands are owned, for infinite hands are we. The miracle came, he did not change his mind, and gathered around him a crew. And people could buy his free programs from him, sent by him, and his money got through. A time for this game, and they said, we're free too. You can take code as if in a mall. It will be only yours, then just say it's from us, and it runs and compiles where you code. But no law shall bind us or keep us for long, for infinity's ours and infinity is free. And no company owns us and no lands are owned, for infinite hands are we. Now Richard M. Stallman was vexed and annoyed, so he sent out the word like before. All code must be free, contribute where that's safe, which our license ensures evermore. But still many coders were learned from our ranks, now for Windows and Apple they strive. Their doom at the fall came from Finland one day, is to go with free kernel array. And no law shall bind us and keep us for long, for infinity's ours and infinity is free. And no company owns us and no lands are owned, for infinite hands are we. Come on to US, came a cult spreading one, for there is no place else you can be. But Richard M. Stallman still sent out the word that all code from now on must be free. So code would stay free if the teams didn't sell, but some loopholes remained in our sight, which traitors like TiVo exploited to steal. So we needed a change in the right, for no law shall bind us or keep us for long, for infinity's ours and infinity is free. And no company owns us and no lands are owned, for infinite hands are we. So our license reshaped by the people and new for contributed to trade, and all has been unto withhold us or bind. No law, no code, but the license we made. Just that law shall bind us and keep us for long, for infinity's ours and infinity is free. And no company owns us and no lands are owned, for infinite lines are we, for infinite lines are we.
Infinite Hands qui nous interprétait la chanson du logiciel libre. L'original, c'était Richard Matthew Stallman, toujours sur Divergence Numérique. On poursuit avec ces nouvelles et cette campagne de financement de la Quadrature du Net. Comme vous le savez sans doute ou pas, la Quadrature du Net a lancé sa campagne de financement pour lui permettre de boucler son budget prévisionnel 2011. Les soutiens recueillis jusqu'à présent ne permettent en effet de poursuivre les actions que jusqu'en en mars 2011. Donc il vous invite à les aider, à diffuser largement que possible en postant un billet sur votre blog, en tweetant, par les réseaux sociaux, par mail et en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi reproduire les bannières et la corner pop-up dont les codes sont disponibles sur la page de campagne sur votre site. La Quadrature du Net, c'est celle qui s'occupe de défendre les intérêts des les internautes pour que le net reste libre, neutre, indépendant, pour qu'il ne soit pas complètement noyauté. C'est eux qui œuvrent auprès des députés à l'Assemblée nationale, au Parlement européen également. Ils sont très actifs, mais ont besoin de soutien. Alors, allez sur la quadrature du net et soutenez-les. Voilà. N'oubliez pas aussi de soutenir Framasoft qui en a aussi besoin. Framasoft.org. Protémé 9.0, une nouvelle version de l'environnement numérique de travail. Une version 9.0, donc de Prométhée, l'environnement numérique de travail, ENT. Clé en main, libre et gratuit à destination des établissements scolaires et disponible en téléchargement. Il semble que dorénavant, un nouveau partenariat se conclut à chaque rentrée scolaire pour proposer un déploiement et un accompagnement par des professionnels. Cette année, c'est la société Eden Solutions qui propose l'ENT Prométhée aux établissements qui en font la demande. Une news que l'on retrouve sur Prométhée, sans les accents, .eu.org. Alors, une info assez intéressante, une première version publique de Gaspacho, version 0.1. Non, ne rigolez pas. C'est bien un logiciel configurer l'ensemble des postes d'un parc informatique est une activité rébarbative et difficile, surtout dans un environnement hétérogène avec des utilisateurs nomades. Gaspacho permet de pallier ces difficultés en offrant à l'administrateur la possibilité de gérer de façon centralisée la configuration de l'environnement de travail des utilisateurs d'une entité. Le projet a été initié par l'association de promotion du logiciel libre en Côte d'Or, Coagule, dans le cadre des journées de développement de l'année 2009-2010. Cette version 0.1 est la première version publique du serveur de configuration sous licence GNU GPL version 3. Seule la partie serveur est aujourd'hui disponible. Les agents Gaspacho installés sur les postes clients ne sont pas encore finalisés. Le logiciel n'est donc pas utilisable en l'état dans un environnement de production, mais en tout cas, vous pouvez l'installer au niveau serveur pour gérer votre parc. On peut retrouver donc cette info sur www.gaspacho-project.net. On s'accorde une petite pause musicale avec, attention les oreilles, une version métal de la chanson du logiciel libre.
Join us, no one brain is
Et oui, la version métal de la chanson du logiciel libre, ce sont bien les bonnes paroles, mais une variante, une grande variante de cette chanson d'origine bulgare, toujours sur Divergence Numérique, votre émission sur les logiciels libres. On continue tranquillement cette actualité. Avec l'April qui publie un catalogue papier de logiciels libres, le groupe de travail Sensibilisation de l'April a élaboré un catalogue papier de logiciels libres intitulé « Catalogue libre 2.26 logiciels libres à découvrir ». L'enjeu de ce document de plus de 60 pages est double. D'une part, présenter des logiciels libres correspondant à des usages quotidiens des ordinateurs, par exemple lire une vidéo pour faire référence au célèbre lecteur multimédia VLC. D'autre part, inscrit dans une perspective de promotion, le contenu du catalogue est enrichi d'une série de textes détaillant les enjeux liés aux logiciels libres et autres sujets afférents. Ainsi, le présent guide introduit des logiciels libres et gratuits pour le grand public, couvrant l'ensemble des usages les plus courants de l'informatique, multimédia, bureautique, éducation, Internet. Chacun d'eux est sous licence libre, dispose d'une traduction en français et d'une version multiplateforme. Les concepts du libre sont explicités dans les encadrés accompagnant les fiches de logiciels. Avant le poster « Le logiciel libre 2. Comment ça marche ?», le catalogue libre enrichit une collection de documents de sensibilisation de plus en plus complète, dont une sélection est disponible donc sur le site de l'April, april.org. N'hésitez pas à aller le lire, à le faire découvrir à votre environnement, à vos voisins, à vos amis, etc. Donc diffusez-le, n'hésitez pas. Une autre dépêche, libérer les données publiques de leur format propriétaire ou l'étape 1 de la chasse au trésor. La chasse au trésor des données publiques a démarré en grande pompe le vendredi dernier à la cantine. Une étape 0 était centrée autour de retour d'expérience afin d'évangéliser notamment les acteurs institutionnels sur la libération des données publiques. Donc l'objectif de nosdonnées.fr est de référencer les données publiques libres. Si le droit français et européen est plutôt favorable aux licences libres, le problème vient surtout des formats utilisés par l'administration. De rapides recherches sur Internet montrent que moins de 1% des fichiers contenant potentiellement des données sont fournis sous des formats libres et lorsque c'est le cas, ce sont généralement des documents et non des données. L'étape 1 de la chasse aux données devrait donc se concentrer sur la conversion de documents non machine readable vers des formats ouverts de données type CSV, XML. Le début de cette chasse pourrait être également l'occasion de défis un peu plus techniques, notamment d'agréger des données accessibles uniquement de manière partielle. Toutes les bonnes volontés motivées pour promouvoir les formats ouverts et rendre accessibles au plus grand nombre, les données publiques sont donc les bienvenues pour contribuer au projet donc nosdonnées.fr. Alors on poursuit toujours avec une petite dépêche qui vient de tomber, rapport annuel 2010 sur le développement du noyau Linux. Comme l'an dernier, la Linux Foundation vient de mettre à disposition un document PDF qui analyse le mode de développement spécifique du noyau Linux et qui propose de nombreuses statistiques sur l'année qui vient de s'écouler. Quelques commentaires donc dans la suite de la dépêche que l'on peut retrouver donc sur linuxfr.org ou sur les différents liens. Voilà. On peut aussi poursuivre sur sur des promenades et de la cartographie si vous êtes du côté de Poitiers. Donc ce 4 décembre 2010, les associations APP 3L et ADETI proposent une journée de contribution au projet OpenStreetMap, un projet international puisqu'il s'agit de faire une carte libre avec des niveaux de détails inégalés, les voies, les rues, les ruelles, mais également les points de repère, les commerces, le numéro dans la rue, la géolocalisation, les lieux insolites, etc. Une journée qui sera l'occasion de présenter le projet et de faire une promenade dans le centre-ville de Poitiers afin de remarquer une carte, de renseigner une carte papier avec les informations visuelles les plus marquantes, déroulement donc de la journée. Vous avez à partir de 9h30 jusqu'à 16h. Vous retrouvez ça sur le site de APP 3L. Et puis toujours dans le rayon cartographie, OpenStreetMap, toujours le même, donc cette cartographie participative, collaborative, une cartopartie qui est accessibilité à Paris. Donc OpenStreetMap, un grand projet destiné donc à réaliser, comme je l'ai dit, une cartographie du monde sous licence libre à la manière de Wikipédia. Tout le monde est invité à contribuer, modifier et changer les cartes déjà en ligne. Le groupe de travail accessibilité de l'April, encore eux, organise donc ce samedi 4 décembre une cartopartie accessibilité. L'idée étant de faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap en leur proposant des cartes adaptées, notamment en agglomération. Les informations prises en compte sont l'accessibilité aux fauteuils roulants, qualité du revêtement, hauteur des trottoirs, l'inclinaison de la route, les surfaces podotactiles, surfaces que l'on peut reconnaître à travers la chaussure ou bien avec une canne, l'accès aux toilettes et aux bâtiments publics. En tout cas, à Paris, s'ils essayent le métro, c'est mal parti, à part la ligne 14. On peut retrouver ça sur toujours le site de l'April, wiki.april.org, mapping partie accessibilité. On va s'accorder une petite pause musicale, non pas avec la chanson du logiciel libre, puisque je n'ai plus trouvé de version dérivée ou en tout cas adaptée. On va s'écouter Undefined Bouton de l'artiste Alt F4. C'est en licence Creative Commons. Allez, on s'écoute ça sur Divergence Numérique. Thank you. Et oui, Alt F4 Undefined Bouton, un artiste que l'on retrouve sur le label Antiblues, antiblues.org, toujours dans Divergence Numérique 93.9, Divergence FM 103.3, 104.1 pour Radio Escapade, et puis divergence-fm.org pour vous qui nous écoutez sur le net. Et puis cette musique, c'était bien pour introduire la nouvelle version du jeu Plear the Beer, nouvelle version donc de ce jeu, un jeu libre de plateforme où intervient un ours grognon à la recherche de son fils. Une nouvelle version qui est numérotée 0.5 et qui arrive plus d'un an après la précédente. Donc au menu de cette version, des mini-jeux, de nouveaux personnages et diverses améliorations. Cette nouveauté et cette nouvelle version arrivent avec un système de mini-jeux, des mini-jeux qui sont des niveaux indépendants de l'histoire et qui peuvent être joués n'importe quand. Cependant, certains doivent être débloqués en effectuant une action particulière dans les niveaux principaux. Les quatre mini-jeux actuels sont la cascade, où le joueur doit atteindre le haut du niveau dans le temps imparti. Les ours en folie, qui est un jeu de rythme où le joueur doit suivre la musique avec ses actions. Entraînement aux pierres, qui permet donc de s'entraîner à lancer des pierres. Et l'arène, qui permet de combattre un autre joueur. De nouveaux personnages aussi apparaissent aussi dans cette version. Une petite grenouille, un petit lapin, qui font maintenant partie de la forêt. Aucun des deux n'est un ennemi, mais le premier vous ralentira et l'autre vous volera les carottes que vous aurez récupérées. Enfin bref, vous pouvez aller sur le site officiel pli-thebeer.sourceforge.net ou sur LinuxFR si vous cherchez bien. Voilà, on va s'accorder une petite pause musicale avec toujours mon petit coup de cœur de 2010, Emerald Park, extrait de l'album For Tomorrow, édition 2010 avec The Common Field. Puis on se retrouve juste après pour l'agenda du libre.
It's a 24/7 song. We'll be right back.
The Common Fields, extrait de l'album For Tomorrow par le groupe Emerald Park, toujours sur Divergence Numérique, votre émission sur les logiciels libres. Nous abordons cette dernière partie, avant la fin de cette émission, par le traditionnel agenda du libre. À noter des ateliers libres au Kawanga ce vendredi 3 décembre de 14h à 19h. N'oubliez pas aussi, si vous nous écoutez actuellement, l'install party donc, du 4 décembre à la médiathèque Emisola de 10h à 18h. Venez avec votre ordinateur, avec votre curiosité pour voir, découvrir GNU Linux et différentes distributions. Ce sera une install party Ubuntu 10.10. On peut retrouver aussi l'agenda du libre sur agendadulibre.org pour nous français, .be pour nos amis belges, et puis .qc.ca pour nos amis québécois. À noter aussi vendredi des ateliers à la médiathèque de Téran, avec de 16h à 17h un atelier Open Shot Vidéo Editor, et je vous le conseille vivement. C'est un très très bon logiciel de montage vidéo. Vous importez vos fichiers, vos images, vos séquences vidéo dans cet éditeur. C'est un éditeur de logiciels donc vidéo non linéaire, donc vous pouvez avoir plusieurs pistes, mettre du son, faire des transitions. Et la dernière version est directement interfacée avec Blender, un logiciel 3D qui vous permet de faire des flying logos de toute beauté. Aussi à noter, à partir de 17h jusqu'à 18h, c'est l'atelier Audacity. Hop, je lance mon petit générique, voilà. Et puis, c'est ainsi que se referme cette divergence numérique numéro 89. Je remercie El Ninja à la technique, Monsieur Rivendell, surtout l'Airplay pour ses lancements audio, Monsieur Ardour 2 pour l'enregistrement de cette émission, et puis vous qui nous écoutez sur les différentes radios, Divergence FM, Radio Escapade ou sur le net. Vous pourrez retrouver donc cette émission en podcast dès le lendemain. Quant à moi, je vous dis soyez libres, téléchargez que du libre, et puis à la semaine prochaine. Terrorist Networks. Terrorist States.